Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1er mai, c'est l'occasion de réfléchir au travail, de réfléchir à ceux qui ont réfléchi au travail. Bonjour Perrine Simon-Naoum.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, on vous doit notamment la nouvelle Causalité diabolique publiée aux éditions de l'Observatoire, un livre où vous évoquez notamment l'antisémitisme et la manière dont celui-ci résonne avec la démocratie et ses formes contemporaines. C'est un sujet qu'a évoqué, ça n'est pas le seul, mais c'est un sujet qu'a évoqué bien sûr Hannah Arendt. J'ai voulu vous inviter parce que je me dis qu'aujourd'hui, s'il y a une philosophe qui résonne tous les jours avec l'actualité, c'est Hannah Arendt. Peut-être quelques mots tout d'abord pour la présenter à ceux qui ne la connaîtraient pas. Perrine Simon-Naoum.
Oui, Hannah Arendt fait partie de cette génération de philosophes qui entrent en philosophie dans les années 1920 autour d'un maître qui est Heidegger. Très vite, elle va se heurter à l'antisémitisme en Allemagne. Donc, elle naît à Königsberg en 1906 et elle sera amenée à quitter l'Allemagne parce que juive en 1933. Elle vient à Paris en 1933. Elle est arrêtée en 1933. Et internée au camp de Gurs, et elle arrivera à quitter la France pour rejoindre les États-Unis en 1941. Ensuite, elle va passer donc la suite de sa carrière aux États-Unis, et de là, elle va réfléchir à la refondation d'une philosophie politique dans la ligne d'une pensée sur son livre majeur intitulé « Les origines du totalitarisme » qui paraît en 1951. Il sera publié beaucoup plus tard en France. Et à partir du phénomène du totalitarisme, Hannah Arendt va repenser l'ensemble des phénomènes de la société moderne, dont le travail, vous en avez parlé, mais aussi la communauté, mais aussi la génération. Finalement, elle va chercher à établir ce qu'on pourrait appeler une philosophie de la relation, en montrant que l'homme n'est jamais isolé dans le monde, mais qu'il doit parvenir donc à trouver sa place dans le monde en construisant une communauté et en faisant politique.
Je vous propose justement d'entendre la voix d'Hannah Arendt où elle évoque la question du travail. La question du travail, comme vous allez l'entendre, en lien avec la consommation, parce que pour elle, le travail était en quelque sorte l'envers, le corollaire de la société de consommation. C'était en 1964.
Vous voyez, pour moi, le travail et la consommation ne sont que les deux faces d'un même phénomène, c'est-à-dire ce cycle où oscille la vie, où oscille toute vie. C'est pourquoi c'est si important et, me semble-t-il, si malsain, parce qu'il s'agit d'une manifestation de l'absence de monde. Le monde paraît ne plus avoir d'importance.
Le monde compris comme lieu d'émergence du politique.
Je l'entends maintenant dans un sens plus large, comme l'espace dans lequel les choses deviennent publiques, comme l'espace dans lequel on vit et dans lequel on doit paraître présentable, dans lequel l'art apparaît bien sûr. Mais dans le travail et la consommation, l'homme est totalement replié sur lui-même.
Perrine Simon-Naoum, on vient d'entendre la voix d'Hannah Arendt, philosophe qui a pensé le travail et qui l'a pensé notamment dans un livre extrêmement important, La condition de l'homme moderne, paru en 1958. Donc elle pense le travail comme l'envers de la consommation. Qu'est-ce que ça signifie pour elle ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Hannah Arendt a défini le travail comme elle le dit dans cet extrait, quelque chose qui est une activité liée à la vie biologique. Maintenant, il faut faire très attention et ne pas se méprendre sur cette définition, c'est-à-dire que en réalité, on pourrait penser qu'elle traite le travail en mauvaise part, c'est-à-dire qu'elle montre finalement que le travail, c'est l'activité qui nous permet de survivre, à savoir trivialement de nous nourrir, c'est-à-dire que nous métabolisons et nous consommons finalement tout ce qui nous permet de survivre. Mais c'est aussi pour mieux préciser, et elle le fait tout de suite dans cet extrait, que le travail doit être pensé en complément de deux autres notions qu'elle appelle l'œuvre et l'action. Et l'œuvre et l'action sont deux notions par lesquelles l'homme, d'une part, trouve un prolongement à travers l'œuvre. On pourrait dire que c'est quelque chose, par exemple, l'œuvre est artisanale. L'œuvre, ce serait une table, et la table nous survit. Et l'action qui débouche sur la liberté, qui débouche sur la relation à l'autre. Donc, en réalité, la notion de travail chez Arendt doit toujours être pensée comme amenant vers une ouverture sur l'autre, une ouverture sur le monde, et finalement, comme elle le dit elle-même, une ouverture sur le politique, qui est la nature de toute société.
Et oui, parce qu'en fait, elle revient aux origines, en quelque sorte, de la philosophie, Perrine Simon-Naoum. Pour elle, le zone politikon, l'homme comme animal politique, est au fondement, en quelque sorte.
Absolument. Ce qui est très frappant chez Arendt, c'est la manière dont elle développe une pensée qui est, je dirais, faussement facile. Sa démarche est toujours la même, c'est-à-dire qu'elle consiste d'abord à faire une étude étymologique et historique. Mais pour autant, Arendt ne doit pas être lue comme une historienne, elle doit vraiment être lue comme une philosophe. Et donc, qu'est-ce qu'elle va montrer ? Elle va montrer finalement que le travail a pris une place prédominante, et c'est ce qu'elle critique, dans l'expression de la société moderne. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Ça s'est fait d'une part au début des temps modernes avec la transformation, le passage de ce qu'elle appelle la vita contemplativa, qui était la vie finalement contemplative, la vie des moines, on pourrait dire, dans les monastères, qui passaient leur temps dans la spiritualité, vers une vita activa, d'engagement dans le monde, et un deuxième renversement qu'elle va attribuer à Marx dans sa critique de Marx, et elle travaille beaucoup sur Marx dans les années 1950, elle avait même le projet d'écrire une biographie de Marx, projet qu'elle va abandonner. Elle critique Marx finalement pour la prédominance qu'il donne au travail. Chez elle, le travail doit toujours trouver effectivement son complément dans l'œuvre et l'action, et c'est la critique qu'elle formule à l'égard de la modernité, finalement de cette forme d'appauvrissement qui est de réduire l'homme au travail, et dit-elle, ce qui sera encore plus horrible, et d'une certaine façon elle se rappelle de la crise de 1929, de réduire l'homme au travail, un homme qui n'a plus de travail.
Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas l'accuser, Hannah Arendt, d'avoir une pensée très aristocratique du travail, ou alors anti-moderne, Perrine Simon-Naoum ?
Non, je ne crois pas. Elle voit parfaitement les dévoiements que la société moderne et la société capitaliste fait subir au travail. Et d'une certaine façon, je dirais qu'elle ne se berce pas des illusions de Marx, qui pensait que le travail serait amené à dépérir dans une société communiste. Ce qu'elle conteste, elle, avant même Marx, ce sont les économistes libéraux comme Adam Smith, dont elle dit que finalement c'est eux qui ont, avant Marx lui-même, avant Marx et Engels, amené la fonction communiste, et elle parle de fonction communiste, en mettant l'utilité au-dessus de la beauté, et finalement en réduisant notre existence au monde, au fait de consommer aussi rapidement des produits que nous avons fabriqués.
Mais alors, pourtant, dans la tradition philosophique, beaucoup de philosophes considèrent qu'on se réalise au travers du travail. Si on prend par exemple Hegel, il y a là, chez lui, une pensée extrêmement positive du travail. Est-ce qu'il y a une inflexion, une rupture entre ce que disait Hegel, par exemple, et ce que dit Hannah Arendt, Perrine Simon-Naoum ?
Hannah Arendt appartient au courant de la phénoménologie, c'est-à-dire qu'elle pense, contrairement à Hegel, non pas l'homme en surplomb du monde, mais l'homme toujours en relation avec le monde. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre sa définition du travail, c'est-à-dire que celui-ci ne se pense pas seulement, finalement, comme le moyen d'assurer notre survie biologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout ramener au vital, mais il faut aussi comprendre que notre relation au monde, eh bien, c'est une façon de donner un sens à notre existence, et que ça passe, je dirais, au-delà de la fabrication des objets, par le sens que nous y mettons, et la possibilité finalement de surmonter la finitude qui est la nôtre, puisque ces objets qui apparaissent au terme de l'œuvre, et ces communautés finalement politiques qui apparaissent dans l'action et dans la liberté, eh bien nous espérons qu'elles vont nous survivre.
Bon, mais hélas, il est compliqué de donner complètement tort à Hannah Arendt, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, la politique est un mot de plus en plus dépossédé de son importance, au contraire de la consommation, et effectivement de cette relation au travail qui est de plus en plus absorbante et probablement de moins en moins émancipatrice.
Mais je crois que c'est là où justement elle est d'une brûlante actualité, c'est-à-dire que d'une part, elle ne pense jamais, et ça lui sera reproché en économiste, c'est-à-dire que elle ne réduit jamais l'activité de l'homme à la simple production, et elle attire notre attention en permanence sur la nécessité pour nous de d'entretenir des relations avec les autres et avec le monde. Le travail en est une partie, ça n'est pas le tout. Et donc on peut s'inquiéter des usages qui sont faits d'Arendt ou des mésusages qui sont faits d'Arendt appliqués par exemple au néo-management. Non, Arendt ne donne pas une recette pour mieux manager les travailleurs au sein des sociétés. Elle montre justement que le monde, au-delà de la subsistance du vital, est construit de beaucoup d'autres éléments.
C'est d'ailleurs un thème que nous allons aborder dans quelques minutes avec vous, Perrine Simon-Naoum, puisque l'autre usage qui est dans l'actualité, c'est évidemment la pensée qu'Arendt a consacrée à la barbarie, à notamment la question du mal, avec un terme qui vient d'Arendt mais qui a été très galvaudé, la banalité du mal. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La nouvelle causalité diabolique, c'est aux éditions de l'Observatoire.
6h30, 9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
8h21, nous sommes en compagnie de la philosophe Perrine Simon-Naoum. Vous avez notamment publié la nouvelle Causalité diabolique aux éditions de l'Observatoire. Hannah Arendt avait une pensée particulière du travail et de la consommation. Et puis, aujourd'hui, elle est citée de manière quasi quotidienne pour sa pensée du mal, notamment du fait d'un livre publié en 1963, Eichmann à Jérusalem. On l'écoute évoquer Eichmann.
Lorsque j'ai écrit mon livre sur Eichmann à Jérusalem, l'un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de la force démoniaque. De retirer aux gens l'admiration qu'ils ont pour les grands malfaiteurs comme Richard III. J'ai trouvé dans Brecht la réflexion suivante. Les grands criminels politiques doivent à tout prix être mis à nu et surtout être livrés au ridicule.
Un commentaire, Perrine Simon-Naoum.
Alors je crois qu'on peut faire un lien entre nos deux parties d'émission, c'est-à-dire entre le travail et le mal, la banalité du mal. Pourquoi ? Parce que ce que Arendt, ce contre quoi elle nous met en garde dans le phénomène travail, c'est la manière dont il produit une déshumanisation. Et je ne peux pas m'empêcher, en pensant à ce qu'elle a dit, à deux exemples qui sont l'un donné par son premier mari Gunther Anders sur Hiroshima et le dialogue qu'il a eu avec celui qui a lancé la bombe, Claude Heatherly, qui expliquait qu'il faisait un travail. Ça me rappelle aussi tout ce qui s'est passé au Rwanda lors du génocide des Tutsis, où les Hutus qui allaient exécuter ces Tutsis disaient qu'ils partaient travailler. Qu'est-ce que veut dire Arendt à travers la banalité du mal ? D'ailleurs, elle n'en faisait pas, elle, un slogan. C'est la polémique qui est arrivée après, à partir partir de 1963 qui a érigé finalement cette formule en slogan et en slogan scandaleux. Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Elle voulait dire effectivement que Eichmann n'est pas démoniaque, que Eichmann finalement, et c'est ça qui a fait scandale, elle l'a décrit comme un petit fonctionnaire, quelqu'un qui était comme une feuille qui avait saisi le vent de l'histoire finalement pour répondre à la frustration qui avait été la sienne quand il avait été déclassé socialement. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire en réalité ? C'est que ce qui est banal, ce sont les actions à travers lesquelles le mal s'exerce. Et ce contre quoi elle nous met en garde, et ça fait le lien avec les origines du totalitarisme et le lien avec conditions de l'homme moderne, c'est la manière finalement dont la modernité aboutit à une déshumanisation qui fait que le mal, dit-elle, peut se répandre sur la Terre, finalement comme un champignon. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de personnalité exceptionnelle pour commettre le mal. En revanche, on a besoin de certaines situations et ce qu'elle dit d'Eichmann, ce qu'elle lui reproche, ce pourquoi il doit être mis à mort, mis à part le fait qu'il a participé, il a été l'un des grands acteurs de l'extermination des Juifs, c'est finalement qu'il a refusé de penser. Non pas qu'il
soit
bête. Qu'est-ce
que ça veut
dire
refuser de penser pour Hannah Arendt ?
Refuser de penser pour Arendt, ça veut dire finalement refuser à certaines catégories de personnes d'habiter le monde que vous habitez. C'est-à-dire expulser, en l'occurrence, les Juifs du monde. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire évidemment le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les mots du Hamas qui cherche à expulser les Israéliens d'abord, les Juifs ensuite, les Occidentaux enfin, du monde, d'un monde qui serait régi par un islamisme fondamentaliste.
Et oui, parce que, évidemment, la question de la banalité du mal, d'Eichmann à Jérusalem, tous les termes comptent aujourd'hui, résonnent avec l'actualité, actualité du Hamas, actualité également des crimes de guerre commis à Gaza, et tout cela est au cœur de l'actualité, au risque peut-être, parfois, de rendre cette pensée simple, simpliste, Perrine Simon-Naoum.
Oui, il y a un dévoiement évidemment de la pensée d'Arendt et c'est pour ça que il faut la considérer comme vous le faites ce matin dans sa totalité, je dirais en prenant l'ensemble de son œuvre. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous savez que au cours de ce procès, finalement Eichmann s'est défendu en disant moi, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. C'est-à-dire que finalement, j'ai été un bon Allemand et j'ai répondu à ce qu'on appelle dans la philosophie kantienne, dans l'idéalisme allemand, l'impératif catégorique. J'ai obéi aux ordres, j'ai obéi aux lois. Arendt va être très perturbée par ça, et donc je vous ai dit, ce qu'elle lui reproche, c'est justement de ne pas avoir pensé, et elle va faire un retour à Kant vers la fin de sa vie. Elle meurt en 1975, mais en 1970, elle donne aux États-Unis toute une série de conférences sur la pensée kantienne, dans lequel elle fait un mouvement très particulier, c'est-à-dire qu'elle essaye de montrer ce que personne n'a jamais fait, ni avant ni après, qu'il y a une philosophie politique chez Kant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une philosophie politique chez Kant ? Ça veut dire que elle relie le jugement kantien qui est exprimé par Kant dans la critique de la faculté de juger, la troisième critique, notamment le jugement de goût, et la manière dont nous nous conduisons dans le monde. Et elle définit ce qu'elle appelle une mentalité élargie, en montrant que ce qui est l'essence de l'homme, c'est ce qu'elle appelle sa sociabilité, c'est-à-dire c'est le rapport au monde et c'est le rapport aux autres.
Perrine Simon-Naoum, je vous ai invité pour évoquer Hannah Arendt et l'actualité nous bouscule. Elle nous bouscule pour évoquer un autre homme. Il y a des points communs entre Oster et Arendt. Ils étaient tous les deux juifs. Ce sont deux destins diasporiques. Arendt est passée par les États-Unis. Elle n'y est pas restée. Oster est née aux États-Unis et incarne une forme d'existence en diaspora. Écrivain juif new-yorkais et puis écrivain qui a parlé du travail. Je veux vous faire entendre la voix de Paul Oster. Comment il évoquait sa manière de travailler en tant qu'écrivain.
Un écrivain, ne peut pas mentir. C'est, même si on invente les histoires, il y a une vérité dans ces histoires. Et pourquoi un écrivain sait tout de suite quand il a a écrit une phrase qui est mauvaise, qui doit être supprimée et remplacée par un autre. Et aussi, c'est peut-être trop superficiel, trop aisé, qui évite la vérité des choses. Alors, il faut travailler toujours l'écrivain sur lui-même, sur elle-même, d'arracher les choses même pénibles, mais nécessaires pour créer un livre.
La voix de Paul Auster qui nous apprend le New York Times s'est éteint hier à l'âge de 77 ans. Il y a d'ailleurs dans Conditions de l'homme moderne d'Arendt des mots sur le fait qu'aujourd'hui le travail désigne tout, y compris l'œuvre de l'artiste, Perrine Simon-Naoum.
Effectivement, le travail pour Arendt comprend l'œuvre et comprend l'action. Et donc l'art est finalement pour elle le summum de ce qui vient donner un sens à notre existence et ce qu'elle cherche finalement à réhabiliter de manière, pourrait-on dire, un peu réactionnaire peut-être, contre une civilisation du progrès technique.
Gérard de Cortanzé, nous sommes en duplex avec vous. Vous êtes ami de Paul Auster, écrivain, j'imagine votre peine. Pouvez-vous nous dire quel homme il était ?
C'est quelqu'un d'assez secret. Enfin, je suis un peu ému. Donc,
non, j'imagine Gérard de Cortanzé.
Mais enfin, c'était quelqu'un de très secret. Je me souviens de discussions que j'avais eues avec lui, nombreuses. Et enfin, il me disait toujours, au fond, tu sais, on essaie d'être différent de chaque fois différent de livre en livre. Et c'est très compliqué. Je me découvre de livre en livre. Et il disait surtout, au fond, un pas dans un livre, c'est comme un pas dans la vie. C'est la même chose. Il me disait aussi, les écrivains se sentent beaucoup à l'écart de la vie, de la société. Je me souviens d'une phrase. Il me disait, on marche en sens contraire, on est témoin, on regarde des choses, et on ne se sent pas totalement concerné par les activités des autres. Mais c'était aussi un homme de contradiction, parce que il était très concerné, finalement, par les activités des autres.
Vous savez, alors j'imagine votre émotion, Gérard de Cortanzé, mais ce qui est troublant, c'est que Auster, on l'a connu probablement pour L'invention de la solitude. C'est un livre qu'il a écrit en 1982. Et alors là, cette fois-ci, c'était son père mort qu'il tentait de cerner. Et justement, là aussi, dans le rapport au père, il disait qu'il y avait une part d'obscurité chez cet homme.
Ah oui, alors il a eu un rapport très très particulier au père qui venait d'une famille polonaise, juive de Silésie. Il a travaillé au fond, il vendait des appareils ménagers. Et il a travaillé ensuite dans l'immobilier et il vivait à Newark dans le New Jersey. Et c'était une ville dans laquelle Auster se sentait mal. Il était un peu comme absent dans cette ville. Et il a commencé vraiment, me disait-il, à exister lorsqu'il est arrivé à New York chez ses grands-parents. C'est-à-dire là, on est dans les années... Il est né en 47. Hein. Donc, on est dans les années 57. Il a à peu près une dizaine d'années. Et c'est là qu'il commence à écrire. Hein. Il passait son temps à écrire des histoires où il y avait beaucoup d'enfants, où il y avait beaucoup de jeunes gens très très solitaires, où il y avait beaucoup de poètes, et il me disait au fond dans ces années-là, dans le New Jersey, je me sentais comme en exil. Et ça c'est une notion importante. Il se sentait souvent en exil. Et on voit ça dans ses livres. Ce sont souvent des personnages qui sont en exil, qui sont déplacés. Hein, il y a évidemment tout ça dans la trilogie, mais je pense à un de ses livres qui est moins connu, qui s'appelait La ville des choses dernières, qui était traduite en français par Le voyage d'Anna Blum. Et dans Le voyage d'Anna Blum, il y a des gens qui ont tellement froid, il n'y a plus rien à manger, ils ne peuvent plus se chauffer, et la grande question c'est, on est dans une bibliothèque et il reste les Bibles, et est-ce qu'on va brûler la Bible ? Et ils finissent par brûler la Bible pour pas mourir de froid. Ouais, ce qui est un geste, évidemment. Ouais.
C'est terrible comme évocation. Perrine Simon-Naoum.
Oui, je suis frappée par ce que vous disiez, Claude, Guillaume Herner, par le télescopage de l'actualité. Il y a des accents très arendtiens chez Oster. D'une part, l'importance de la poésie. On a rarement parlé de la relation d'Arendt à la littérature, mais la poésie était pour elle absolument essentielle. Pourquoi ? Parce que la poésie permet de réhabiter le monde. Le monde, c'est quelque chose de difficile. Il y a une phrase qui m'accompagne toujours de Paul Auster. Il dit à un moment dans son œuvre « Je vis parmi les fantômes ». Et ces fantômes sont évidemment ceux de l'exil, ceux de la culture, ceux de l'histoire, mais aussi ceux de sa propre famille et de son père que Gérard de Cortance évoquait. En fait, il y a chez Auster le sentiment de la fragilité du monde et de l'importance des relations finalement pour parvenir à habiter celui-ci. Il y a aussi dans cette disparition, là encore un télescopage de l'actualité. Il appartient à cette génération d'écrivains juifs qui ont trouvé, après un exil soit vécu, soit un exil de leur famille, finalement un havre aux États-Unis. Et pour moi, c'est très symbolique, je ne sais pas ce que lui en aurait dit, il ne s'agit pas de faire des projections, il est très symbolique qu'aujourd'hui, où la présence des juifs, notamment des étudiants juifs sur les campus, est mise en cause aux États-Unis, disparaisse quelqu'un de cette génération, je pense aussi à Philip Roth, par exemple, qui a trouvé finalement une manière américano-juive d'habiter le monde, ce qui a donné une littérature qui restera, je pense, pour les siècles qui viennent.
Et oui, puisque New York est probablement la plus grande ville juive en dehors d'Israël, 950 000 juifs y vivent. Sophie Wallas, vous êtes maîtresse de conférences. Comment évoquer Bonjour. La littérature de Paul Auster, son style, sa place dans les romans, dans la littérature contemporaine.
Bonjour, je vous remercie de m'inviter à participer à cette discussion. Je crois que c'est un auteur effectivement majeur. C'est un auteur aussi qui s'étudie très très bien à l'université, que les étudiants aiment beaucoup lire. Ses romans, L'invention de la solitude aussi, que moi j'ai enseigné plusieurs fois avec des étudiants de master notamment. Mm-hmm. C'est une écriture qui peut paraître à première vue assez limpide. Ce sont des ouvrages qui sont assez faciles à lire et qui sont d'une profondeur, qui recèlent une beauté aussi vraiment, vraiment frappante.
Oui, alors c'est quelqu'un qui insistait beaucoup sur la difficulté qu'il y avait à écrire. Il disait, écrire c'est comme s'arracher une dent par jour. C'est quelqu'un qui griffonnait, il écrivait à la main. Il était graphomane, il écrivait énormément, mais là aussi avec des difficultés, Sophie Wallas, bien sûr, pour trouver la phrase juste.
Oui, exactement. C'est aussi quelqu'un qui, jeune, a été poète, tout d'abord, qui a écrit des poèmes assez difficiles à lire, contrairement à sa fiction, contrairement à sa prose, qu'il comparait à des points serrés, et puis qui a, je pense, pratiqué aussi l'écriture. Certains des textes d'Auster parmi les plus beaux sont les essais qu'il a écrits sur d'autres écrivains, surtout quand il était en France, dans les années 70, il a passé 3-4 ans en France, il a écrit des essais absolument superbes sur énormément d'écrivains juifs d'ailleurs, sur des écrivains qu'il admirait, et ce sont des morceaux vraiment superbes dans lesquels on sent qu'il fait ses gammes, hein, il cherche à écrire sur le style de l'autre, sur l'écriture de l'autre, tout en travaillant son écriture à lui. Ce sont des textes extrêmement beaux qui ont été publiés dans un volume en français qui s'appelle L'art de la fin. Et c'est vraiment un styliste, Auster. C'est vraiment quelqu'un qui a peaufiné une écriture qui peut paraître trompeusement simple, en fait, quand on le lit, et qui est d'une richesse qui se prête magnifiquement à l'analyse littéraire, par exemple.
Moon Palace et Léviathan sont probablement deux de ses ouvrages les plus connus. Gérard de Cortance, quelques mots sur Moon Palace et sur Léviathan.
Oui, alors attendez, je vais juste revenir sur une petite chose. L'importance de la poésie, ça c'est essentiel chez Auster. Il ne faut pas oublier non plus que Auster a écrit des pièces de théâtre. qu'il a aussi été cinéaste et, comme vous le rappeliez tout à l'heure, essayiste. Mais je vous raconte une anecdote qui me semble-t-il, est fondamentale pour comprendre Auster. En 1995, on a fait un numéro spécial, magazine littéraire, autour de Paul Auster. On voulait un inédit. Donc je lui dis, est-ce que tu as un inédit, un roman en cours, quelque chose ? Il me dit, écoute, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Revenant, un roman. Au départ, c'était une pièce de théâtre. Eh bien, je vais te donner Revenant, parce qu'il est toujours très intéressant de voir la source de quelque chose. Et dans tous les livres de Paul Auster, on est toujours à la source de quelque chose. Et dans Moon Palace, on est à la source de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours son enfance, il y a toujours ses parents, il y a toujours sa vie en France. C'est essentiel pour lui, toujours ce retour en arrière.
On écoute justement Paul Auster sur son enfance.
Je viens d'une famille qui n'était pas très éduquée. Ni mon père, ni ma mère est allé à l'université. Je vivais dans une maison sans beaucoup de livres. Mais pour une raison ou une autre, j'aimais lire. Et on avait une bibliothèque publique dans notre ville, petite ville à New Jersey. Et je suis allé toutes les semaines pour emprunter les livres. On joue au baseball pendant le temps chaud de l'année, mais on peut lire 12 mois par an. Alors finalement, j'ai beaucoup plus lu que joué au baseball.
Tout l'humour et tout le français de Paul Auster qui, hélas, nous a quittés hier. Perrine Simon-Naoum, une réaction?
Oui, ce qui me frappe, c'est la manière dont, à travers le livre, finalement, il fait du livre le point de rencontre de l'autre et le point de rencontre du monde. Et ça participe aussi de la nécessité, quelqu'un le rappelait tout à l'heure, de dire la vérité des choses. Finalement, cette vérité des choses, ça n'est évidemment pas une vérité absolue, mais c'est une vérité qui se construit et qui se construit dans une rencontre. À la fois, je dirais, la rencontre de l'écrivain avec lui-même, et on sait l'importance de la réflexivité dans le travail de Paul Auster et la manière dont effectivement l'écriture lui permettait peut-être de percevoir de manière plus aiguë les choses, mais aussi une écriture dialogique, c'est-à-dire finalement dans cette solitude, la relation qu'il voulait établir avec le lecteur et qui était toujours, je dirais, une relation bienveillante, toujours une relation de tolérance. Encore une fois, ce qui me frappe dans son style, dans son mode d'écriture, c'est la manière dont rien n'est jamais assertorique. Je veux dire, tout est toujours ouvert, tout est toujours amené, expliqué et susceptible d'un pluralisme de lecture. Et le terme de pluralisme est évidemment au centre de l'œuvre d'Arendt, comme il est au centre de celle de Paul Auster.
Sophie Vallas, ceux qui n'ont pas lu encore Paul Auster, par quoi commencer selon vous ?
C'est difficile à dire, mais je dirais, pour la fiction, sans doute la trilogie new-yorkaise, qui est quand même surtout le premier volume, je dirais le dernier volume, La Chambre dérobée, qui est vraiment un livre superbe. L'invention de la solitude, moi j'aime énormément l'écriture autobiographique d'Auster. Il y a 5 volumes qu'il a écrit au fil de sa carrière, en fait, comme s'il donnait un rendez-vous à son lecteur régulier, hein, tous les 5-10 ans. Il y avait un volume autobiographique et puis 2 volumes qui se sont succédés en 2011-2012, je crois, Journal d'hiver et Report from the Interior. J'ai oublié le titre français, excusez-moi. Ce sont vraiment des très beaux textes également. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'une voix qui parle au lecteur, en fait, qui le prend par la main, qui l'emmène, qui lui explique les choses, même les plus complexes, même les plus sensibles. Et puis Moon Palace, bien sûr, je pense qu'il reste
un livre admirable. Et oui, on peut aussi probablement conseillé 4-3-2-1, qui est l'un des livres de Paul Auster sur lequel il revient sur ses obsessions, réflexion sur l'identité, réflexion sur le hasard, qui était particulièrement importante chez lui. Les derniers mots, je vous propose tout simplement de les laisser à ce grand écrivain, à ce poète, Paul Auster.
Pour moi, c'est plutôt un ton, une sorte de rythme que j'entends dans ma tête, une musique, cadence. Il n'y a pas des mots attachés, c'est simplement le rythme. Et pour moi, chaque livre que j'ai écrit a un rythme et une musique différente que tous les autres. Et dès que j'entends cette musique et je me familiarise avec cette musique, c'est très curieux. Les faits, les choses et les personnages commencent à apparaître autour de cette musique et de danser à cette musique. Il faut être tout à fait ouvert et ne pas pousser les choses.
Voilà une masterclass d'Arnaud Laporte consacrée à Paul Auster que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site de France Culture où Paul Auster évoquait l'écriture, le ton, la musique qui l'entend et qui fait apparaître cette écriture. Vous retrouverez sur le site de France Culture la voix de Paul Auster dans les différentes interviews qu'il a données à notre chaîne. Merci mille fois à Gérard de Cortanze et à Sophie Vallas qui ont évoqué Paul Auster. Et puis merci beaucoup Perrine Simon-Naoum. On devait parler d'Arendt, on en a parlé. Et puis vous avez évoqué Paul Auster. La nouvelle causalité diabolique, c'est le livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire.
Se préparer au grand oral du bac. Prendre la parole en public, défendre ses arguments lors d'un débat, déclarer sa flamme. Bien parler et savoir se faire entendre, ça s'apprend.
J'essaye de transmettre, par des livres ou par des enseignements, ce que j'ai appris en matière de prise de parole en public.
Ma parole, entraînez-vous à l'art de bien parler avec Bertrand Perrier, réalisé par François Test sur franceculture.fr et l'application Radio France.